Mais on débute donc ce journal par ce terrible accident de la circulation qui a fait 2 morts ce matin dans le bocage virois à la violente collision impliquant 2 voitures et 1 poids lourd. C'est produit peu avant 8h30 sur l'ARD 524 entre Vire et Saint-Sever à hauteur de la commune déléguée de Ménil-Clinchamp en sortie de la portion à 3 voies. Pour des raisons et dans des circonstances qui restent à confirmer, un jeune automobiliste de 23 ans aurait perdu le contrôle de son véhicule alors qu'il circulait dans la descente de la 3 voies, peut-être à cause du verglas. Le voyant se déporter, le chauffeur du poids lourd a tenté de l'éviter en manœuvrant à gauche, pas suffisant pour éviter la collision avec le premier véhicule. Pire, le camion qui arrivait donc en face est parti en tête à queue et a emporté avec lui une 2e voiture arrivant en face dans un fossé en contrebas. Âgé de 41 ans, le chauffeur du poids lourd, travaillant pour une société de transport de la Ferrière aux Étangs dans l'Orne, a réussi à s'extraire de la cabine. Très choqué, il a été hospitalisé. Hélas, le conducteur du premier véhicule, un jeune homme de 23 ans donc, est décédé. Originaire de Villedieu-les-Poêles, il travaillait à l'ESAT Le Bélé, à Ménil-Clinchamp, et pratiquait le football au sein de l'équipe de sport adapté de l'association du football virois. Dans le deuxième véhicule, la conductrice est restée coincée dans l'habitacle. Sous le poids lourd, il a fallu faire appel à une grue pour procéder à l'enlèvement du camion et de la voiture. Une automobiliste, hélas, également décédée, âgée de 46 ans, demeurant à Pont-Farcy. Elle était secrétaire de mairie à Saint-Martin-de-Talvande et venait justement de déposer son enfant au collège de Saint-Sever. La circulation a été bloquée dans les 2 sens. Jusqu'en début d'après-midi, une déviation a été mise en place. Avec 58,29 millions d'euros, le montant global des promesses de dons est en baisse pour ce 34e Téléthon qui s'est refermé ce week-end. Mais compte tenu du contexte, les organisateurs ont mis en avant un résultat formidable. En raison du confinement, les traditionnelles animations en public n'ont pu avoir lieu. Dans le bocage non plus, à l'exception du défi Street Steeper de Serge Cordon, qui, bien relayé par Radio VFM et différents partenaires, aura permis de récolter la jolie somme de 10 821 euros. Euros au profit de l'AFM. Une édition qui restera dans les annales à plus d'un titre pour Serge Cordon qui, vendredi soir, était sur le plateau de France 2 aux côtés de Sophie Davant-Nagui et Matt Pokora. Serge Cordon.
Bilan émotion, bilan plaisir et surtout bilan étonnement et une grosse satisfaction d'avoir lancé mon défi et d'avoir eu des gens à me suivre avec d'autres activités qui se sont greffées. Donc je voudrais dire un grand merci à tous les auditeurs, auditrices de Radio VFM qui ont pulvérisé les dons, au Lions Club qui ont lancé une opération, aux vendeuses de confiture, aux gens de Nous Deux Siennes qui se sont greffés aussi sur mon défi pour faire des activités, et je voudrais pas en oublier sur le magasin Coccinelle, sur le magasin Carrefour Contact qui m'ont suivi. Donc toutes ces petites animations qui se sont greffées autour de mon défi, les gens qui m'ont appelé, les gens qui ont appelé la radio, eh ben je dis merci à tout le monde de m'avoir fait cette confiance. Et j'étais fier de vous représenter sur le plateau télé auprès de Matt Pokora, Nagui et Sophie Davant. Franchement, 10 821, c'est au-delà de tous mes espoirs.
Ça vous a redonné de la force pour la suite. Rendez-vous l'an prochain.
Bah, de toute façon, l'an prochain, 2021, Christophe, ce sont les 30 ans du premier défi en 1991, donc on ne peut pas y couper. Hein. Mais voilà, toutes ces rencontres, j'ai depuis hier des messages, des coups de téléphone où ben voilà, on a pris des contacts. Et j'ai des gens de Lens à Montpellier, de Verdun au Pays Basque qui me disent il faudra un jour passer chez nous. Voilà, j'en ai pour au moins pour 3 ans à faire le Tour de France. Non mais c'est vachement sympathique. Et puis l'année prochaine, bien sûr, un nouveau défi, parce que 30 ans, je pourrais pas rester sur ma chaise à rien faire.
Eh bien, rendez-vous donc en 2021 pour le 35e Téléthon et un nouveau défi donc pour Serge Cordon. Une trentaine de salariés de la PAUI du Bocage Virois, regroupant différents ESAT et structures médico-sociales, se sont réunis pour une manifestation vendredi dernier. Ils dénoncent leur exclusion du Ségur de la santé. Ils ont pu exprimer leur colère au maire Marc-André Sabater. Ils demandent une augmentation de 200 euros par mois. La crise sanitaire qui impacte sérieusement l'entreprise viroise Guy de Graine, la hausse des commandes sur Internet n'a pas permis de combler les pertes liées à l'inactivité des hôtels, des restaurants ou encore du groupe Air France, client majeur du spécialiste des arts de la table. Au printemps dernier, la nouvelle PDG de Guy de Graine, Géraldine Autier-Faillon, avait lancé un appel aux banques évoquant 15 millions de pertes. Si à ce niveau une solution avait pu être apportée, Guy de Graine en appelle également à l'État. Le dossier est d'ailleurs suivi de près par le sous-préfet de Vire, Pierre-Emmanuel Simon.
Compte tenu du contexte et des clients de Guy de Graine, elle a connu une situation un peu difficile. La société société elle-même, hein, c'en est fait l'écho dans la presse. Voilà, il y a éventuellement une possibilité à l'étude, hein, d'aide de l'État. J'espère que ça pourra aboutir prochainement, puisque c'est vrai que c'est un sujet que je suis depuis mon arrivée. Je me souviens qu'on m'avait posé la question la première fois qu'on s'était rencontré à mon arrivée au mois de juin. Cette société, d'ailleurs, bénéficie déjà des mesures d'accompagnement, de ce qu'on peut dire un peu les mesures de résistance, pour employer un vocabulaire de guerre, comme l'a fait le président de la République, puisqu'elle bénéficie du dispositif, hein, d'activité partielle, ce qui lui permet de traverser cette période plus facilement.
Une réponse quant à une aide potentielle de l'État pour Guy de Graine devrait donc intervenir prochainement. Clap de fin pour Léo Mauduit. Le jeune Normand a été éliminé hier des 12 coups de midi après 98 participations au grand jeu de TF1. Il devient ainsi le 5e plus grand maître de midi et a empoché la coquette somme de 410 000 euros ainsi que de nombreux lots. Avant de quitter le plateau hier, le jeune homme de 20 ans n'aura pas manqué de faire un clin d'œil à son papy Pierre Julou qui habite Saint-Sever et qui fêtait son anniversaire hier. Dans le Bessin, la 9e édition du Festival international du cirque de Bayeux, prévue du 15 au 21 mars prochain, aura-t-elle bien lieu? Alors que la question reste aujourd'hui en suspens et qu'une décision définitive sera prise début mars en fonction de l'évolution de la situation sanitaire, les organisateurs continuent de préparer activement l'événement porté par ce sondage réalisé auprès du public, sondage qui montre que 68% des spectateurs de la dernière édition souhaitent participer à la prochaine. Étape importante aujourd'hui, l'ouverture de la billetterie, un moment très attendu par tous les passionnés de cirque. Un moment décisif aussi, Julien Caillard, pour tous les bénévoles de l'association du festival.
Oui, parce qu'aujourd'hui, tous ces bénévoles s'interrogent, une réalité que ne masque pas le patron du festival.
Il faut l'avouer, dans l'équipe, eh bien, on se pose des questions. Est-ce qu'on doit y aller? Est-ce qu'on doit repousser, décaler?
Arnaud Tancrel, qui sait que l'ouverture de la billetterie à moins de 3 semaines de Noël va en partie permettre d'être fixé, car le mois de décembre est habituellement crucial pour le festival.
Il faut savoir qu'habituellement, l'association vend à peu près un tiers de sa billetterie pour Noël, donc c'est un vrai cadeau de Noël. Et là, on a remarqué que dans les intentions d'achat, il y avait, selon le sondage, 42% de nos spectateurs qui souhaitaient acheter avant Noël.
Les spectateurs vont-ils acheter leurs billets dans le contexte actuel? C'est évidemment la question. Alors le festival a tout fait pour rassurer. La jauge a pour l'heure été limitée à 1000 personnes par séance. Un protocole sanitaire strict a été pensé avec port du masque obligatoire, respect des mesures barrières et mise en place d'un sens de circulation. Surtout, des solutions ont été imaginées en cas d'annulation.
Les billets seront remboursés ou alors peut-être qu'on pourrait réfléchir à déplacer les dates du festival. Et il en va de même pour les partenaires, puisque là aussi, hein, le partenariat est un budget important pour nous. Eh bien, les contrats de partenariat seraient décalés sur la prochaine édition, avec tous les avantages, que ce soit en termes de publicité ou de place.
Ces places, elles sont donc dès aujourd'hui accessibles à des tarifs identiques à ceux de la précédente édition, des tarifs compris entre 13 et 35 euros.
Explication signée Julien Caillard. Ouverture donc ce lundi de la billetterie du prochain Festival international du cirque de Bayeux. Location des places sur le site www.festivalcirquebayeux.fr à l'espace culturel du centre Leclerc de Bayeux et dans les points de vente habituels, ces places que nous vous ferons aussi gagner dans quelques semaines sur Radio VFM. Voilà qui nous amène au sport. Pas de trophée pour l'équipe de France de rugby battue en finale de la Ligue d'automne des Nations à Twickenham par l'Angleterre hier après-midi 22-19. Le Virois Gabin Villière, de nouveau titulaire, a disputé l'intégralité de la rencontre. En football, Caen y arrive décidément en plus sur les 3 dernières rencontres. Les Canets n'ont empoché que 2 points sur 9 possibles. Nouveau match nul donc concédé à Dornano samedi soir face à Grenoble. Le score 1-0. Et pour égaliser, eh bien, les malherbistes s'en sont remis à un pénalty très peu évident accordé en fin de partie suite à une faute litigieuse donc commise sur Nicolas Gioacchini. Pénalty transformé par Johan Cour. Mais l'entraîneur Pascal Duprat a lui souligné un bon match réalisé par ses joueurs.
C'est dommage qu'on concède l'ouverture du score alors qu'on n'est pas mis en danger. Parce qu'encore une fois, on a bien entamé, mais encore une fois, alors qu'il ne se passe rien, de la part de nos adversaires, on concède. Et puis après, on a encore montré encore une meilleure tenue de balle que ces derniers temps. On n'a pas fait n'importe quoi, on s'est créé des situations en première mi-temps qu'on aurait dû convertir avec un tout petit peu plus de spontanéité. Puis ensuite, en deuxième, à force de courage, on a provoqué un pénalty que d'aucuns considèrent généreux et pour d'autres logiques. On aurait voulu faire mieux sur les 3 matchs dans la semaine. On n'a pris que 2 points, on le sait, dont 2 matchs à domicile qui se soldent par 2 résultats nuls. C'est déjà avant tout, à mon sens, le fait d'encaisser des buts alors que rien ne se passe. Donc voilà, il faut qu'on soit bien meilleur dans nos gestions défensives et bien plus pertinent au niveau tactique. C'est important.
Et oui, car au classement, les Canets se retrouvent 7e avec 22 points, mais ils ne pointent qu'à 5 longueurs du nouveau leader, le club de Troyes. Troyes, ce sera justement le prochain adversaire du Stade Malherbe, samedi à 15h au Stade Michel Dornano.